Les miracles de Jésus sont-ils vrais? Comment bien les comprendre? Comment en parler de manière juste, notamment dans vos classes? Je voudrais commencer par deux remarques préliminaires. La première, c'est que cette question des miracles, plus peut-être encore que d'autres questions liées à la religion ou à la foi, cette question des miracles nous confronte à notre représentation de Dieu et à notre manière de nous positionner par rapport à sa toute-puissance, ce qu'on dit de la toute-puissance de Dieu. Ce n'est pas une démarche banale, car on pourrait dire que l'on soit pour ou contre les miracles, il y en a certains qui vont dire « moi j'y crois pas », ou d'autres qui disent « moi j'y crois dur comme fer, puisque c'est dans la Bible, ça doit être vrai », et on ne peut pas remettre ça en question dans une espèce de foi généreuse, mais peut-être un peu tout ou rien. En vérité, derrière ça, derrière même ce débat un peu d'idées, ce sont nos propres images de Dieu et de ce qu'on attend de lui qui sont remises en question. Comment comprendre cette toute-puissance divine? Est-ce que c'est comme celle d'un magicien, d'un Harry Potter avant la lettre? Et d'ailleurs, des élèves, puisque j'ai demandé par l'intermédiaire des inspecteurs à quelques-uns d'entre vous, peut-être, de faire remonter des réflexions de vos élèves, de vos classes, concernant ce thème. Et voilà les réflexions de quelques élèves de première année qui disent « Jésus a-t-il des pouvoirs ? Et s'il a des pouvoirs, comment les a-t-il eus ?» Quelqu'un dit « Jésus a un papa magicien, son papa lui a appris à faire de la magie. » Un autre dit « Un miracle, c'est de la magie, ça arrive quand on est gentil. » Tiens, celui-là, il fait déjà un lien entre comme une récompense. Pour que quelque chose de bon nous arrive, c'est un miracle, c'est quand même quelque chose de bon, on doit être gentil. Donc, l'aspect. Beaucoup de personnes, et pas seulement des enfants d'ailleurs, même des adultes, raisonnent ainsi par rapport au sacrement. Il m'arrive de recevoir des gens qui viennent pour le baptême de leur enfant et qui me disent « Mais voilà, je voudrais le baptême pour mon fils ou ma fille parce que je voudrais qu'il ne lui arrive rien de mal. » Le baptême serait une sorte d'assurance tout risque. Alors je suis toujours un petit peu embêté parce que je me dis, mon Dieu, si dans les semaines qui viennent, il tombe malade, si ce n'est qu'un rhume, ça va, mais il peut y avoir un accident, et alors il vient me voir en disant, mais ça ne marche pas votre truc. Hein. Moi je venais pour qu'il ne lui arrive rien. De quoi et comment le baptême sauve-t-il? Et donc, derrière ça, on perçoit qu'il y a un risque de se tromper, de se méprendre sur la manière propre dont Dieu se rend présent dans nos vies et dans le déroulement de l'histoire. C'était ma première remarque préliminaire. Donc, on sent bien que ça va questionner nos images de Dieu, nos représentations de ce qu'on attend de lui, de sa toute-puissance. Deuxième remarque, c'est que, évidemment, le sujet qu'on m'a gentiment attribué est vaste et complexe. J'y ai passé de nombreuses heures de mes vacances, c'était passionnant mais exigeant parce que je ne suis pas un spécialiste de la question, mais que j'ai appris beaucoup. Je vais essayer de vous partager ce que j'ai trouvé et que je vais devoir un peu sélectionner. Je suis désolé de ne pas peut-être travailler les différents miracles, etc. Donc voilà, je vais vous proposer un chemin, c'est une approche des choses. On pourrait d'ailleurs, ça ne va pas être mon propos tellement, mais je fais quand même une allusion, partir des miracles aujourd'hui. Notamment les miracles dans la vie de tous les jours. On utilise le mot miracle dans le quotidien. Quelques exemples dans les titres des jours. Sauvé de la défaite par un but miraculeux de Lukaku dans les arrêts de jeu. Magnifique. Voilà que Lukaku fait des miracles. Je suis aussi pour le Standard, je pourrais citer, je ne sais pas, Lei ou Nong, ça il n'y a pas de jaloux, dans l'Assemblée. Un autre titre, catastrophe, c'est plus tragique. Ça existe aussi, et ça, on entend. Catastrophe aérienne. On dénombre 2 survivants parmi les 150 passagers et membres d'équipage. Et un peu plus loin, témoignage des miraculés. Tiens, et les autres? Question. Autre. 5 jours après le tremblement de terre en Haïti, des équipes de secours viennent de retrouver un enfant indemne. C'est un vrai miracle. Ou encore à Lourdes, un 75e miracle vient d'être reconnu. La question, et tous les autres qui ont prié la Vierge et qui ont fait un pèlerinage de tout leur cœur, qui n'ont pas été exaucés apparemment, question. Tiens, ça rejoint d'autres réflexions glanées dans vos classes. Pourquoi Jésus n'a pas guéri toutes les personnes malades? Pourquoi avoir guéri un lépreux alors qu'il y en avait tant à côté? Pourquoi est-il venu faire des miracles, dit un enfant, rien que pour les juifs et pas pour les autres? Tout à fait juste, des miracles en dehors du monde juif d'ailleurs, hein, que même les païens étaient peut-être plus ouverts que certains juifs, mais voilà. Et donc, dans le cadre limité de mon intervention aujourd'hui, je ne vais pas aborder le phénomène du miracle aujourd'hui, mais à partir des miracles de Jésus, tels que les évangélistes nous les rapportent. Je pense quand même que de partir ainsi de cette analyse biblique nous permettra de nous situer d'emblée à la source de la foi chrétienne et nous donnera des éléments pour éclairer, pour nous éclairer, j'espère, sur la bonne façon de nous situer par rapport à d'éventuels miracles contemporains, des choses qu'on nous rapporte. Alors, je m'appuie, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ont été à l'atelier de Jean-Pierre Sterck de Gueldre, eh bien, et que vous avez déjà été mis en chemin dans une didactique, dans une pédagogie holistique, etc. Il vous a peut-être expliqué deux, trois choses. Je me suis fort inspiré, j'ai été le rencontrer, comme le disait André en début de journée, ce professeur qui enseigne à Aix-la-Chapelle et qui est d'abord professeur de religion pour le secondaire, il a écrit ce livre. Donc, voilà, pour que le titre arrive. Donc, Jésus a-t-il marché sur les eaux? Ça, il est encore tout chaud, il vient de sortir. Et fondement exégétique pour une didactique des miracles de Jésus. Il m'a autorisé à utiliser certains éléments, je vais donc m'appuyer. Je ne vais pas répondre tout de suite à la question, est-ce que Jésus a marché sur les eaux? Je vous réserve la réponse pour plus tard, un élément de réponse. Mais je vais essayer de vous proposer une partie de son cheminement et reprendre certaines de ses conclusions. Et donc, vous devinez, il s'agit d'un travail de repositionnement, de remise en question, qui nous concerne tous et toutes, et qui demande, même au-delà de cette journée et de ma conférence ici, devant vous, qui demande une étude consciencieuse, un peu exigeante, du donné biblique, et même en osant se confronter aux spécialistes de l'analyse des textes. C'est un travail de recherche qui est vraiment nécessaire, parce que ça permet d'éviter des erreurs dans notre propre conception ou dans nos façons de nous exprimer et qui parfois peut entraîner des fautes pédagogiques qui sont regrettables, qui peuvent entraîner des blocages ou des erreurs. Je ne vais pas vous faire peur, mais justement vous donner quelques éléments peut-être pour être vigilant avec confiance, puis en faisant confiance aussi à vos intuitions, mais d'être vigilant dans l'approche de ces questions. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer, vous l'avez dans le plan, par bien poser la question de départ. Souvent, on pose la question en se demandant, mais les miracles de Jésus sont-ils vrais? Et ça veut dire, se sont-ils vraiment passés comme ça? Et même, à la limite, comment l'a-t-il fait? Comment s'y est-il pris pour faire cela? Ça rejoint les questions d'élèves de troisième année qui disent ça. Comment Jésus fait ça? Comment il fait pour guérir tout le monde? Quand Jésus guérit quelqu'un, il fait des trucs bizarres. Par exemple, il prend de la boue, il crache, il met sur les yeux. Comment Jésus a-t-il fait pour faire parler l'esprit muet? Ou encore, comment Jésus fait-il pour nous voir d'où il est? Donc le comment, la procédure. C'est vrai que c'est ça qui, spontanément, dans notre esprit un peu technique, scientifique, nous touche. Mais ce n'est pas la véritable question. Donc il faut essayer de déplacer l'action. La vraie question, c'est pourquoi, en vue de quoi Jésus agit de la sorte? Quel est le sens de son agir? Nous reviendrons sur ce point essentiel parce qu'il y a une manière inadéquate d'entrer dans le questionnement qui va nous coincer et il y a un certain déplacement qui va nous faire percevoir la vraie portée des récits de miracles. Et donc il vaut mieux reformuler sans doute la question en disant... En se demandant non pas si les miracles sont vrais, parce que c'est quelle vérité? Vérité historique? Vérité métaphorique? Vérité de foi? Donc, non pas est-ce que les miracles sont vrais, mais est-ce que Jésus a réalisé des miracles? Ça, c'est la question d'un historien qui dit, mais est-ce que c'est des choses que les chrétiens ont inventées ou bien est-ce que Jésus a vraiment réalisé des miracles? Eh bien, pour cette question, à en juger sur la base de témoignages chrétiens et non chrétiens, on peut répondre par l'affirmative, oui, on peut estimer historiquement que Jésus a réalisé, a opéré des miracles. Je cite simplement, parce que ça pourrait être trop long et il y a d'autres éléments complémentaires que vous pourrez trouver dans l'ouvrage du professeur Stef de Gelder. Flavius Joseph, ce n'est pas un chrétien, c'est un historien d'origine juive et de langue grecque du 1er siècle, qui dans un livre intitulé « Antiquité » parle de Jésus en le décrivant comme un faiseur de miracles. Donc, c'est un peu comme s'il y avait un regard extérieur qui dit, ben voilà, ce Jésus, en tout cas, on parle de lui, et c'est quelqu'un qui fait des miracles. Il s'agit pour l'essentiel, dans les actes qu'il pose, d'exorcisme, donc de libération d'esprits impurs, de démons, et de guérison au profit de personnes en détresse. Et cela cadre bien avec l'attitude de Jésus à l'égard des enfants, des femmes, des infirmes, des impurs, des exclus de tout genre, à qui Dieu offre gracieusement son salut. Ça, c'est vraiment au cœur du Jésus de Nazareth, du Jésus le Galiléen. C'est cette rencontre des personnes fragilisées pour leur offrir un salut. Et c'est en cohérence avec son enseignement aussi qui annonce la venue toute proche du royaume. Luc, dans son chapitre 11 au verset 20, dit d'ailleurs que Jésus lui-même présente ses miracles comme des signes précurseurs de ce royaume entamé. Alors, pour la question de l'historicité de tel ou tel miracle particulier, ça demanderait une recherche un peu plus précise. Il y a un auteur qui s'appelle John Mayer, qui a écrit un livre assez récent, c'est l'œuvre de sa vie. Il y a 4 volumes, en tout ça doit faire cette épaisseur-ci, sur le Jésus de l'histoire. Donc essayer de reconstituer, avec le plus de fidélité possible, à partir de critères d'analyse, ce qu'on peut dire du Jésus de l'histoire. Ça demande énormément de temps d'étude pour un résultat parfois maigre et qui ne nous fait pas percevoir la vraie portée, au fond, de Jésus, qui n'est pas que Jésus, mais qui est Jésus-Christ. C'est dans ce que je vous dis dans le plan, il faut avoir à l'esprit, pour pouvoir percevoir les enjeux de cette question, distinguer le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Je dis bien distinguer et pas séparer. Il y a des gens qui ont pu dire, bah oui, il y a Jésus, c'est un homme du temps, et puis les chrétiens ont inventé le Christ, etc. Non, c'est bien la même personne, c'est bien ce Jésus qui est né un jour du temps, qui a croisé les pas des hommes et qui, après cet événement de Pâques, cette mort en croix et cette expérience étonnante du matin de Pâques et de la résurrection, a été dans la foi perçu comme le Christ, Messie, Sauveur, Dieu au milieu de nous. Donc c'est tout un chemin. Et cette expérience pascale, cette expérience de Pâques, a conduit à relire tout ce qui avait été vécu avec Jésus, avec une lumière différente. Et même, à certains moments, de réécrire l'histoire pour mieux mettre en lumière tel ou tel aspect de la foi. Et donc les exégètes, les spécialistes de la Bible, distinguent la question de l'historicité, c'est-à-dire qu'est-ce que Jésus a vraiment dit et fait, et ce qu'ils appellent la Formgeschichte, c'est-à-dire l'histoire de la formation des évangiles, l'histoire rédactionnelle des évangiles. Les évangiles n'ont pas été écrits d'une traite le lendemain de Pâques. Vous savez sans doute, donc il y avait des traditions orales diverses qui ont circulé, il y a des sources différentes, et puis à un moment donné, il y a eu une mise par écrit par différents évangélistes qui donne d'ailleurs des tonalités différentes parce que c'est en fonction des questions propres aux communautés. Luc écrit à des chrétiens de langue grecque et va donc, à la différence de Matthieu qui parle davantage à des juifs, à des chrétiens d'origine juive, va donner une couleur, va répondre à certaines questions qui préoccupent les destinataires. Et ça va faire en sorte que nos quatre évangiles ne se ressemblent pas. Ils se ressemblent, ils ont des points communs, mais ils ont des différents. Ça nous trouble parfois. Tiens, la résurrection, est-ce qu'il y a deux anges ou un ange ? Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais si, il ne faut pas s'arrêter à ça, puisque on peut le voir comme un procédé littéraire pour dire une vérité théologique plus fondamentale. Mais c'est ça quand je dis mal poser la question, qui alors va venir dire mal, mais ils se contredisent. Et donc, je le mets dans les feuilles, ça peut être un peu différent, dire oui, mais enfin, alors, les évangélistes, ils ont inventé des choses. Alors je réponds oui et non. Oui. Oui, dans la mesure où il y a une intervention plus ou moins grande sur des matériaux narratifs qu'ils ont relus, travaillés, actualisés. Ils ont eu cette liberté, cette audace de dire mais ce n'est pas figé, ce n'était pas la transmission simplement passive d'un contenu objectif. C'est quelque chose qu'on habite et qu'on réexprime. Oui, il y a une part d'invention. Mais attention, parce que le mot invention est piégé, parce qu'on dit oui, mais inventer, c'est mentir. C'est trompé, donc il n'y a rien de vrai. Vous voyez d'où, tout de suite où on en arrive. Non, ici je dis qu'il y a création, il y a réécriture pour certaines choses sur base de faits historiques. Donc je ne dis pas qu'il y a. Il y a des faits historiques, il y a réécriture, relecture. Mais pour moi je dirais qu'il n'y a pas invention dans la mesure où ce travail littéraire se fonde sur un fait inédit, la personne de Jésus. Né un jour du temps, mort, ressuscité le matin de Pâques, et qui est devenu pour les croyants le Christ de la foi. Ça, c'est le matériau qui résiste et qu'on n'invente pas. Mais un peu comme un ami, on peut avoir le même ami commun, on ne dirait pas la même chose de lui. Parce que mon expérience de cette amitié est unique, elle m'est propre. C'est le même ami, objectivement, mais c'est une relation chaque fois unique et singulière. Comprenez ? Pourtant on dit, mais tu ne parles pas de la même personne. Ben si, mais je en parle avec mon regard, avec mon expérience. Vous voyez que ça nuance, ça rend les choses complexes. Hein, parce qu'on va se dire, ah oui, nous on aimerait que ça soit ou bien tout vrai ou bien tout faux. Ça ne peut pas marcher comme ça. On ne peut pas rencontrer les évangiles de cette façon-là. Par exemple, dans le fil rouge que vous avez aussi donc par cette petite feuille qui présente donc justement sur le récit 2 du théâtre évangile les guérisons, on reprend en Marc 1 un exorcisme et une guérison. Et dans cet exorcisme notamment, on voit le démon qui parle. Je sais très bien qui tu es. Tu es venu pour nous perdre. Tu es le saint de Dieu. Et Jésus là, lui impose le silence. C'est curieux. D'abord, il y a un démon qui parle. Alors, ne vous en faites pas, c'était à l'époque un processus littéraire courant. Ce n'est pas un souci de faire parler les démons. Il y a, dans des récits littéraires du temps, c'est quelque chose qui est. C'est pas là le problème. Mais on peut penser que, est déjà dit à ce moment-là, dans le cadre historique d'une guérison, une vérité théologique qu'on comprend mieux à la lumière de Pâques. Donc, même. Tous les récits du Nouveau Testament sont retravaillés à la lumière de Pâques. Un peu comme quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu ». C'est sans doute que Jean-Baptiste a présenté Jésus, l'a reconnu, l'a désigné aux disciples. Mais cette phrase-là, est-ce que c'est celle-là qu'il a dite ou c'est celle que on le voit parce que maintenant nous savons que c'est l'agneau de Dieu qui sera sur la croix immolé. Comprenez que on est un peu démuni pour savoir ce qui est vraiment historique et ce qui est confession de foi des premiers chrétiens. Mais ça ne remet pas en question. C'est parce que nous sommes tellement marqués par la vérité historique qu'on a l'impression que du coup, c'est plus vrai alors. Si, ça a la force d'une vérité de foi. Mais voilà, je ne vais pas anticiper sur cette reconstruction dans la foi et essayer de revenir un peu à notre tentative de reconstruction historique. Donc Jésus, retenons qu'il s'est fait connaître dans son ministère public, dans son humanité, comme guérisseur, comme exorciste. Et que sur cette activité, il va fonder la légitimité de son enseignement et attirer des foules autour de lui. Et dans cette activité de thaumaturge, il y a des modes opératoires très variés. Parfois, c'est une guérison par étapes, comme pour l'aveugle de Bethsaïde. Parfois, c'est une guérison à distance, par une seule parole, comme pour Bartimée. Il ne le touche pas nécessairement. Parfois même, il y a des guérisons qui ne s'opèrent, ou des exorcismes, ici c'est un exorcisme en l'occurrence, qui ne s'opèrent que par le jeûne et la prière. D'ailleurs, les disciples se disent, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser ce démon? Ah, ben celui-là, il ne se chasse que par le jeûne et la prière. Donc, il n'y a pas un mode opératoire type. Et puis, autre point, c'est le point 1b sur votre plan. Jésus est thaumaturge, guérisseur. Jésus est exorciste, mais parmi d'autres. Car au 1er siècle, dans le monde juif et grec, les miracles sont monnaie courante. Vous avez peut-être entendu parler d'Asclépios ou d'Esculape. Ce sont, Esculape pour les Romains, c'est l'équivalent, puisqu'il y avait le nom romain ou grec d'un dieu. C'est le dieu de la médecine. Des temples lui sont dédiés, comme à Épidaure, par exemple. Et autour de ces temples, il y a tout un culte des guérisons et qui s'en sont répandus dans tout le bassin méditerranéen. Ce qui fait qu'il y a tout un lexique, un vocabulaire lié au culte de guérison. Je l'ai cité dans vos feuilles, je cite deux, trois mots, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais les mots comme « Thomas », qui est traduit parfois par un tour de magie, comme un tour de passe-passe, si vous voulez, « Arete », acte de bravo, « Thomasion », acte prodigieux, une merveille, ou « Paradoxon ». Et donc, il est important de mesurer qu'il y a un vrai marché du religieux à l'époque. Parce que parfois on a l'impression, vu d'où nous sommes, que dans un monde où il ne se passait rien, Jésus arrive et fait des miracles. Mais non, il n'est pas le seul. D'ailleurs, ce n'est pas le fait que Jésus fait des miracles qui prouve son origine divine. Parce qu'il y a d'autres guérisseurs dans son temps. D'ailleurs, même chez nous, il y a des marabouts, il y a des magnétiseurs, il y a des gens... Alors, il y a du charlatanisme là-dedans, il y a des abus, il y a toutes sortes de choses. Mais parfois, on peut dire, c'est quand même étonnant parce que ça marche. Je ne vais pas entrer dans ce vaste monde complexe de la guérison où il y avait peut-être des éléments psychologiques et toutes sortes de choses. Mais donc, ce n'est pas le fait que Jésus fasse des miracles qui le rend original, mais c'est la manière particulière dont il le fait. Quelle est la spécificité des miracles de Jésus? Jésus, en fait, lui-même d'ailleurs, relie ses miracles à la venue du royaume. La guérison vient nier le caractère fatal de la souffrance. Comme si, voilà, je souffre et c'est pour toujours et je suis foutu et je n'en sortirai pas. Il y a quelque chose de la fatalité liée à la souffrance qui est comme brisé, qui est comme ouvert. La guérison